Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Erdiwa. Et comme tous les jeudis, de 19h30 à 21h, c'est l'émission Feu de tout bois.
Salut, amis du Diwa.
Et on va commencer directement cette émission par ce qui s'est passé hier au Loco Loco. Il y avait une soirée sur le nucléaire avec la présentation d'un ouvrage qui s'appelle Fukushima Paradise. Et la personne qui l'a écrite était là pour en parler. Donc une petite discussion super sympa autour de ce bouquin, et un bouquin assez intéressant, et voilà, des bons échanges sur ce qu'est le nucléaire, plus généralement les nuisances qu'on subit, et sur la façon dont on peut lutter contre ça. Je vais lire un extrait de cet ouvrage, ça donnera une petite idée un peu du contenu. Si dans un premier temps, la catastrophe, donc la catastrophe nucléaire, fait apparaître l'inanité de ce monde, très vite, elle dissipe aussi. Elle débouche souvent sur une demande accrue de protection étatique. Le pouvoir français l'a d'ailleurs bien compris lorsqu'il a annoncé, dans les jours qui ont suivi Fukushima, qu'il allait faire vérifier toutes les centrales. La morale de l'histoire est connue d'avance. Mis à part quelques aménagements de façade, tout continuera comme avant, de Fessenheim à Flamanville. C'est également là que la critique doit affiner ses armes à plus d'un titre. Elle ne doit pas reculer devant ce qui est une évidence en matière de nucléaire. Comment demander à un quelconque État, à cette forme autoritaire d'organisation sociale, de mieux gérer son parc nucléaire et de nous protéger de ses risques, alors que c'est elle-même qui a conduit la mise en place de tout ce merdier? De la même façon, rien ne sert d'agiter la menace de la grande catastrophe au risque de ne renforcer que la peur et l'impuissance, quand en regardant les choses en face, on peut constater que le nucléaire fuit de partout. À Fleurus, en Belgique, comme au Tricastin dans la Drôme, des camarades et des compagnons ont ainsi tenté d'intervenir juste après que le pouvoir a choisi de révéler des fuites radioactives. Ce sont autant de manières d'expérimenter des pistes pratiques permettant de relier le nucléaire au monde qui le produit. Ça, donc, je lis l'introduction, donc c'est l'objet du chapitre 2, ce passage. Un des objectifs de ce recueil est en l'occurrence de sortir d'une conception étriquée du nucléaire qui le restreindrait aux centrales et à une question énergétique, pour tenter d'en analyser tous les ressorts, militaires, scientifiques, etc. En somme, il s'agit de regarder le monstre d'une manière différente. Dans un pays tel que la France où le nucléaire se trouve véritablement au coin de la rue, les possibilités d'intervention sont plus que jamais ouvertes et n'attendent qu'un peu d'imagination et de bonne volonté pour se transformer en acte. Et c'est l'objet du chapitre 3. C'est dans notre vie, même au sein de notre quotidien contaminé, que l'on peut tenter quelques offensives. On pourrait notamment s'intéresser aux usages devenus banals du nucléaire, que l'on songe à l'usage de sources radioactives dans l'industrie et la médecine ou aux déchets variés qui dorment sous nos pieds et sont aussi régulièrement transportés d'un site à l'autre. Les exemples foisonnent. Depuis les légumes irradiés pour qu'ils pourrissent moins vite, aux remblais d'infrastructures à base de stériles radioactifs, cours d'école, logements, routes, chemins de randonnée, etc. En passant par la contamination accidentelle et pourtant régulière de rouleaux d'acier à l'échelle mondiale, transformés ensuite par l'industrie en montres, ustensiles de cuisine et autres objets de consommation courante. En analysant le nucléaire, sous toutes ses facettes, ce sont alors de nombreux domaines de la critique qui s'ouvrent pour qui veut attaquer le monde à sa racine. Dans le même ordre d'idée, un autre angle d'attaque a également retenu notre attention ici. Il s'agit des débuts de la lutte spécifique menée contre la construction d'une ligne à très haute tension du côté de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne depuis 2003, où le projet EDF est de relier le futur EPR de Flamanville au réseau existant. Cette lutte a pu parfois ouvrir des perspectives intéressantes en proposant un terrain décentralisé d'action, ce qui est l'objet du chapitre 4. Si le souffle initial semble à présent être tombé sous le coup de jeux politiciens, entre comités, institutions locales, syndicats agricoles, partis politiques, et s'être embourbé dans des médiations juridiques, qui sait pourtant ce qu'il se passerait par la suite? Comme on a pu le voir dans le passé, le dépassement de ces limites pourrait se produire une fois que le chantier de la THT commencera réellement, maintenant que le tracé définitif a été rendu public. Au-delà de ces quelques suggestions d'intervention, avant ou après la construction de ces nuisances, on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Une réflexion supplémentaire s'impose. Tant Fukushima ou Tchernobyl ne sont pas des accidents de parcours. Pour les autorités, un des enjeux actuels du nucléaire n'est en effet pas uniquement de savoir comment éviter ces catastrophes, mais aussi de mettre en place des dispositifs afin d'expérimenter différentes manières de les gérer socialement, une fois qu'elles se sont produites. C'est pour cela que des experts français et internationaux ont mis en place dès 1996 en Biélorussie des programmes destinés à apprendre aux populations à vivre durablement sous contraintes radiologiques. Ils expliquent tranquillement qu'à condition de suivre minutieusement leurs recommandations, il n'est pas systématique de vivre dans les régions largement souillées de radioactivité. Là encore, l'État prépare cette gestion militarisée de territoires et de populations contaminées en organisant depuis plusieurs années des exercices de simulation grandeur nature aux abords des installations nucléaires, sur le modèle des simulations d'attaques terroristes. Les esprits doivent désormais s'habituer à l'éventualité d'un accident majeur, et plus encore apprendre à obéir en cas de crise. Et c'est l'objet du chapitre 5. Donc ça, c'est un extrait d'introduction d'un ouvrage qui s'appelle Fukushima Paradise. Il est édité aux éditions Mutine et La Canaille. Et on peut le trouver en librairie. Mais si on passe directement apparemment par les réseaux de distribution, il est à 5€ et en 8€ en librairie, ce qui est relativement pas cher. Et donc voilà, l'édition, je rappelle, c'est édition Mutine et La Canaille. Et voilà, le titre Fukushima Paradise pour une critique radicale du nucléaire. On va s'écouter un morceau.
Vous n'êtes pas au monument aux morts, vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes morts, et deux fois morts. À vos petits-enfants, on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffres et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, Mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête, se révolter lui paraissait énorme, elle bavait encore devant l'uniforme, Mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de la Marseillaise qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de fer comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute à voir le train dont vont les choses. Mutin de 1917. Mutin de 1917.
Et voilà, RDWA 107.5 FM, vous écoutez l'émission Feu de tout bois comme chaque jeudi soir. Et on vient d'écouter un morceau de Serge Ujeroyo, qui est un chanteur qui vit à Paris, qui a chanté beaucoup de chants révolutionnaires en français, mais aussi dans d'autres langues. Et ce morceau, Mutin de 1917, est extrait d'une compile qui s'intitule Contre-chant de ma mémoire. Voilà, on vous avait promis Serge Ujeroyo il y a 15 jours, et donc on vous le passe, on l'a passé ce soir. Alors, pour les nouvelles du Diwa, vous savez, on aime bien faire la chronique locale. Et ce soir, j'ai envie d'en profiter pour chroniquer des articles du journal du Diwa, dont on ne vous a pas encore parlé dans cette émission, et pourtant, ça nous arrive de le lire. Et alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un long article. Donc, bon, là, on est un peu en retard sur l'info, puisque, comme vous le savez, le journal du Diwa apparaît le vendredi matin. Comme on est jeudi soir, eh bien, on a vraiment l'édition un peu périmée de la semaine dernière. Mais néanmoins, des informations intéressantes dans le numéro du 6 avril 2012, puisque nous avons un long article qui relate la réunion du comité de ligne pour la ligne TER Valence-Luc, Valence-Gap, qui a eu lieu le 21 mars dernier, donc ça date déjà un petit peu. Et il faut savoir que cette réunion, il y a plusieurs personnes de l'émission Feu de Toutbois qui avaient l'intention d'y aller, et finalement personne n'a eu l'occasion d'y aller. Donc, heureusement, le JDD, Journal du Diwa, est là pour rattraper la situation et nous faire un compte-rendu assez détaillé de ce qui s'est passé. Donc, on a un peu toutes les infos sur les points de débat qu'il y a sur cette ligne de train. Ligne de train qui est quand même assez importante pour pas mal de gens. C'est quand même assez pratique, assez utile de pouvoir se déplacer vers la ville, vers les gares TGV, vers Lyon, etc. en train, plutôt que de devoir toujours aller en voiture. Et donc, cette réunion, elle a eu lieu dans les locaux de la salle des réunions de la cave Jaillance. Il y avait du beau monde qui était présent, puisqu'il y avait Didier Jouve, qui est président du comité. Il y avait des représentants de la région Rhône-Alpes, il y avait des représentants de la SNCF, des représentants de RFF, c'est le Réseau Ferré de France, puisque vous savez que maintenant, il y a eu une scission entre la SNCF qui gère les trains, même pas tous les trains, une partie des trains qui circulent, et Réseau Ferré de France qui gère les infrastructures, c'est-à-dire les rails et toute la gestion de ces aiguillages et des rails, etc. Des représentants de la ville de Die, donc des élus, des représentants d'associations, notamment d'usagers et de cyclistes, et des usagers de la ligne. Donc ça faisait apparemment pas mal de monde qui était là pour discuter de l'avenir de cette ligne. Donc on a parlé de quoi ? On a parlé des grands travaux qui sont programmés pour l'année prochaine, pour l'année 2013, donc il y aura beaucoup de travaux sur la ligne. Et quoi ? Et ben, ces travaux auront forcément une incidence. Vous savez comment ça se passe quand il y a des travaux. On en a l'habitude. Ça fait qu'on a des services de car qui remplacent les trains, que ça bouleverse un peu les horaires, etc. Donc, il faudra s'attendre à ça pour l'année prochaine. L'espoir, entre guillemets, ça serait que pour l'année 2014, on ait du coup un service de train qui soit un peu renforcé. Apparemment, un objectif demandé, c'est qu'il y ait trois allées et trois retours par jour du Diwa, de la vallée de la Drôme jusque Valence, ce qui n'est pas le cas actuellement. Avec une bonne régularité. On nous parle de quoi ? On nous parle de la fréquentation de la ligne, qui a apparemment baissé sur le tronçon Cré-Valence, mais qui a augmenté sur le tronçon Die-Valence. Apparemment, il y a quand même beaucoup de monde qui utilise cette ligne. Et par rapport au nombre d'habitants, la ligne Valence-Die est d'une fréquentation 50% plus élevée que la moyenne régionale. Ce qui signifie qu'en fait, les gens du Diwa prennent plus le train, se déplacent plus en train que les autres gens qui vivent dans la Drôme. On apprend également que les retards des trains sont quand même assez importants. Proportionnellement, il y a seulement 56% des trains qui sont à l'heure. Donc c'est pas tellement. Voilà. Bon, après là-dedans, il y a les retards de 5 minutes qui sont pris en compte, et puis il y a les retards plus longs. Donc ça nous... Enfin, bon, tous les trains n'ont pas une demi-heure de retard, hein, tout de même, il ne faut pas exagérer. De quoi est-ce qu'on nous parle d'autre ? Eh ben voilà, il y a eu diverses choses qui ont été soulevées par rapport au problème des autocars, parce que entre Die et Valence, vu qu'il n'y en a pas beaucoup de trains, pas mal de gens circulent aussi en autocar, et les usagers ont fait remarquer que le car ne remplace pas le train, parce que c'est quand même beaucoup moins confortable, il y a plus de bruit, c'est plus étroit, ça bouge plus, donc c'est moins bien. Les usagers ont aussi évoqué le problème que dans la gare de Die, on n'a pas de toilettes, on n'a pas de chauffage, il n'y a pas beaucoup de guichets qui sont ouverts, donc voilà. Et quoi d'autre ? Et en plus, dans les autocars, on ne peut pas mettre son vélo, ce qui n'est pas très pratique non plus. Donc voilà, bon, on n'apprend pas finalement grand-chose de très radicalement neuf par rapport à ça, mais on a bon espoir que cette ligne de train continue à fonctionner. Et alors c'est dommage parce que j'avais prévu de vous amener également le petit Comme Diwa, le journal des communistes du Diwa, qui nous parle aussi de cette réunion, qui nous en parle d'un autre point de vue, évidemment, et qui nous donne d'autres informations, mais j'ai oublié ce journal chez moi, donc je ne pourrais pas vous en parler maintenant. Et alors, bon, voilà, il y a un peu toutes sortes d'infos, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a deux articles qui concernent les fameux tags qui ont été faits à Die cet hiver, hein, vous vous souvenez, d'ailleurs il en reste un petit peu. Et c'est assez drôle que là, dans cette édition du JDD, on ait deux articles qui parlent de ça. Une petite mise au point du Front de Gauche, que je peux vous lire. Donc, le Front de Gauche, qu'est-ce que le Front de Gauche nous déclare ? Mise au point sur les tags. Il semblerait qu'un plaisantin ait trouvé judicieux de repeindre des façades de maisons de Die à coups de fluo et de slogans politiques. En tant que représentant du Front de Gauche à Die, nous tenons à préciser que nous condamnons ces pratiques qui dégradent notre cadre de vie et vont à l'encontre du type même de campagne que nous souhaitons mener, respectueuse du Diwa et de ses habitants. Et c'est signé Corinne Morel d'Arleux et Philippe Levenberg.
Et il faut peut-être signaler qu'il y a certains tags qui est de cette espèce de sous forme de pochoir où il y avait marqué Front de Gauche en fait dessus quoi.
Ah absolument oui, ça doit être ceux-là. Qui sont tout à fait.
Je crois qu'ils se désolidarisent de cette personne qui
de
fait
cette,
ça.
De cet enthousiasme pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis, on a un autre article. Effectivement, j'avais oublié ces derniers tags. Et on a un autre article, alors assez obscur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans le journal du Diwa, des fois, il y a des gens qui écrivent des textes où ils font une sorte d'humour. Et moi, je ne comprends pas très bien leur humour. Et donc là, il y a quelqu'un qui fait tout un texte sur ce graphe « Exprimez-vous » qui est sur le mur du collège et qui fait tout une espèce de métaphore autour du coq en disant que la personne qui a fait ce graffiti était probablement un coq. Et bon, il fait toutes sortes de sous-entendus un peu étranges. Il termine en disant « Par contre, j'ose espérer que le terme du processus électoral clouera le bec du volatile. Faute de quoi, je me fais fort de lui taguer la recette du coq au vin. » Donc voilà. Sachez que nous sommes menacés par un rédacteur du journal du Diwa d'avoir la recette du coq au vin écrite à la peinture, à la bombe de peinture sur les murs de la ville.
C'est assez expéditif hein, comme méthode. Hein.
Quelle insécurité. Bon, ben on peut écouter un petit peu de musique. On vous dira ce que c'est après l'avoir entendu.
Qui maintenant pleure quelque part dans le monde sans raison pleure dans le monde. Quelque part dans la nuit, sans raison, rit dans la nuit, rit de moi. Qui maintenant marche quelque part dans le monde, sans raison. Marche dans le monde,
à l'écoute de Radio Diwa et vous écoutez sur les 107.5 Feu de tout bois. Et on va un peu voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique au Mexique. Là, on en parle pas beaucoup, si ce n'est pour parler de l'affaire Florence Cassé, là, cette femme qui est emprisonnée, paraît-il injustement, au Mexique. Et puis, de temps en temps, on a quelques nouvelles sur les guerres entre narcotrafiquants. Et peut-être ça, du coup, c'est un peu plus intéressant. Et ça va être l'occasion d'amener un peu ça aussi dans ce remise en contexte, peut-être.
Ouais, voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que le Mexique, au-delà de Florence Cassez et du cliché du paysan qui est nonchalamment adossé à son mur, son sombrero sur la tête, est un pays où il se passe en ce moment d'assez sinistres événements. Donc voilà, c'est vrai que c'est... On va essayer d'en parler de façon un peu claire, même si la situation est très très compliquée à démêler. Et on va partir de 2006 et donc de l'élection de l'actuel président Felipe Calderón, qui à son arrivée donc a déclaré une guerre au narcotrafic. Donc voilà, il a déclaré la guerre aux narcos, avec le soutien et sous la pression des États-Unis, du puissant voisin. Et c'est vrai que on n'en entend pas souvent parler par ici. Et c'est sous la forme de brèves qui nous annoncent un tel massacre ici, un tel massacre par là, une opération de l'armée qui au cours d'affrontements a tué des narcotrafiquants, voilà un peu ce qu'il en ressort. Donc ce qu'on sait moins, c'est que il y a en fait c'est une vraie guerre en cours en fait. Il y a 60 000 personnes qui sont mortes depuis 5 ans. Le nord du pays c'est complètement transformé en zone de guerre, c'est-à-dire qu'il y a 50 000 militaires qui ont été déployés. C'est devenu une zone qui est très très difficile d'accès pour les journalistes, où le Mexique est aussi le pays où le plus grand nombre de journalistes meurt, qui est quand même au-dessus de pays comme l'Irak ou l'Afghanistan qui sont officiellement en guerre. C'est vrai qu'il suffit de quand on est sur place, en ouvrant les journaux, tous les jours, c'est des histoires de règlements de comptes sanglants, des histoires de fosses communes qu'on met à jour dans le désert, d'affrontements entre l'armée et supposés groupes de narcos. C'est des histoires qui sont, qu'atteignent un degré d'horreur vraiment à glacer le sang, des assassinats, enfin. Horrible, sanglant, c'est vraiment une boucherie. Au-delà de cet enfilement de faits divers et voilà, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et ce qui est en train de se jouer là-bas. Et donc de parler un peu de la situation du Mexique à un niveau économique, social, politique. Aussi des enjeux géostratégiques quoi qui marquent cette région quoi. C'est vrai que le Mexique c'est paradoxalement pas un pays pauvre, c'est un pays qui est d'après les statistiques de ces messieurs du FMI et autres organismes est la 14e puissance mondiale économique, qui a un PIB par habitant de 8 000 dollars. Mais il suffit de se balader dans les villes, dans les campagnes pour comprendre que ces statistiques, elles ont absolument rien à voir avec ce que vit la population au quotidien, avec leurs conditions, voilà. Quand on est là-bas, c'est vrai que dans les villes, par exemple, on se rend compte qu'une grande partie des gens vit de l'économie informelle, donc de petits boulots, à vendre tout et n'importe quoi, de gens qui placent les voitures sur les parkings. C'est vraiment en fait une une distribution des miettes, une division des miettes à l'infini pour pouvoir survivre, quoi. C'est ça qui ça interpelle beaucoup, quoi, en y allant. Enfin, voilà, les villes sont vraiment, enfin, c'est un, des, à part des centres-villes qui ont été rénovés, qui sont dédiés au tourisme, où il y a une bourgeoisie, une classe, enfin une classe qui a beaucoup d'argent. Petite digression, que le Mexique c'est aussi le pays qui a l'homme le plus riche au monde, par exemple, donc ça donne une idée aussi. Et la campagne, c'est pas mieux, quoi. C'est-à-dire que le tissu agricole a été complètement détruit depuis 30 ans par les politiques néolibérales, donc par les politiques d'ajustement structurel, par les injonctions du FMI, par le traité de libre-échange à l'ENA, qui est entré en activité depuis 1994.
C'est un traité avec le Canada et les États-Unis, c'est ça?
Ouais, c'est ça, voilà, qui donc, à l'image de beaucoup de traités de libre-échange qui se font de façon régionale, quoi. Donc, qui ouvre, en fait, complètement les frontières, qui abolit complètement les taxes douanières et donc vise le libre-échange et donc qui a été, en fait, qui a provoqué vraiment des ravages dans la paysannerie mexicaine, qui était une paysannerie relativement protégée par une réforme agraire qui venait de la Révolution. Et là, depuis 30 ans, en fait, les paysans ont été complètement dépassés par les produits américains et les produits agricoles importés des États-Unis. Ce qui a provoqué, en fait, un exode des campagnes qui est un exode massif, en fait, des hommes principalement, mais aussi beaucoup de femmes qui migrent vers le nord dans l'espoir de passer la frontière. Alors, il y en a certains qui passent, il y en a beaucoup qui échouent dans les villes frontières. Donc, les villes frontières, c'est des noms qui vous diront peut-être quelque chose. Tijuana, Ciudad Juárez, c'est des noms qui apparaissent souvent à la rubrique faits divers, effectivement. Ils viennent chercher du boulot là-bas, en fait. Il y a eu tout un tas de maquiladoras, on les appelle, c'est des usines d'assemblage qui ont été installées à la frontière depuis le début des années 80 et dans lesquelles les gens viennent assembler des chaussures.
Mais c'est des zones franches aussi, quoi.
Ouais, c'est des
zones où, enfin, de ce que j'ai compris, c'est des zones où tout ce qui concerne les taxes que prélève l'État en général sont mis à part. C'est des zones un peu spéciales comme ça où le droit classique n'a pas lieu, et du coup aussi le droit du travail pareil, et pour les salaires également. Du coup, les gens sont payés une misère et travaillent beaucoup plus d'heures qu'ils le font dans l'état de droit classique, qui n'est pas déjà très avantageux, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est que effectivement c'est des zones d'exploitation totale, quoi. Qui sont avec des usines qui sont détenues uniquement par des capitaux étrangers, donc qui rapportent absolument rien à l'État mexicain et à la population, quoi. Si ce n'est de se faire exploiter, effectivement, dans des conditions terribles, quoi. Et l'ironie du sort, si on peut parler un peu, c'est un peu cynique, mais c'est que ces usines sont devenues moins compétitives par rapport à ce qui se fait au niveau des conditions de travail et des salaires et des coûts de productivité en Asie. Et donc ces usines qui avaient été délocalisées des États-Unis et aussi d'Europe sont maintenant redélocalisées en Asie. Donc voilà, effectivement, et là-bas, c'est il y a aussi, en fait, un chômage massif, quoi. Plein de gens qui essayent de venir. Donc le but, c'est quand même de passer aux États-Unis, sachant que les frontières se referment de plus en plus. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc même à ce niveau-là, en fait, c'est encore plus terrible que ça ne pouvait l'être, si c'est possible. Il faut savoir que c'est aussi c'est un pays où l'école est complètement en train de se casser la gueule, c'est-à-dire que il y a de moins en moins de fonds qui sont alloués, que les études secondaires, ça devient un privilège que très peu de jeunes peuvent s'offrir, et trouver un boulot à la clé, alors là ça relève du coup de chance ou du pot de vin. parce que le Mexique est un pays où le pot de vin est un sport national. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste aux gens? C'est-à-dire que le modèle de réussite le plus rapide et fulgurant dans tous les sens du terme, c'est de s'enrôler dans l'armée ou de devenir narcotrafiquant. Donc c'est une des données du problème, quoi. On va parler un peu de la politique, quoi, de la situation politique au Mexique, qui est pas plus brillante. Donc le Mexique, en fait, c'est un pays qui a été contrôlé d'une main de fer par le PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel. Et oui, sans blague. Il a été contrôlé pendant 80 ans. C'est un parti qui se voulait l'héritier de la révolution mexicaine du début du XXe siècle. Qui s'est appuyé sur un système, en fait, qui a mêlé un pouvoir exécutif, donc un président très fort, et des espèces de seigneurs locaux, en fait, des gens tout puissants, que ce soit les gouverneurs ou même à des niveaux plus petits, quoi.
Parce que le Mexique est un État fédéral, quoi.
Voilà, c'est un État fédéral, c'est vrai que j'ai pas précisé. Donc, c'est-à-dire que les entités régionales, les États, dans l'État, ont aussi beaucoup de pouvoir. Et donc, voilà, c'était des espèces de seigneurs locaux qui fonctionnaient d'après un système mafieux avec à leur solde des pistoleros, comme on les appelle, c'est-à-dire des nervis, quoi, des hommes de main armés, quoi, qui faisaient régner leur loi. Bien évidemment, un système comme ça, ça a donné lieu à une corruption qui a littéralement envahi toutes les sphères du pouvoir, quoi. Et qui a été encore plus évidemment un terreau fertile au développement de puissants cartels, quoi, qui ont pénétré le monde politique, la police, l'armée. Il y a des liens qui sont vraiment très forts entre toutes les strates, on va dire, du pouvoir, enfin toutes ces manifestations et les narcotrafiquants, quoi, qui sont de toute façon c'est
qui ont un poids d'autant plus important que le Mexique, c'est juste à côté des États-Unis, quoi, et que du coup beaucoup de drogues qui viennent plus au sud passent par le Mexique. D'ailleurs, beaucoup de gens aussi passent par le Mexique d'Amérique centrale pour aller immigrer vers les États-Unis, mais aussi beaucoup de drogue, quoi.
C'est ça. C'est que ça, c'est un autre point, en fait, du problème. C'est que le Mexique a le grand malheur d'être voisin des États-Unis. Et que les États-Unis, c'est le pays le premier consommateur de drogue au monde. C'est un pays qui compte, d'après les statistiques, 15 millions de consommateurs de drogue. Donc je vous laisse imaginer les quantités de cocaïne, d'héroïne, de marijuana que ça peut représenter. Et forcément, ça suscite aussi ça suscite des vocations, on va dire. Et pour revenir là brièvement, en fait, à la situation politique au Mexique, le PRI, qui était donc ce parti au pouvoir depuis 81, a lâché les rênes en 2000, c'est-à-dire qu'il a été, il était en perte de vitesse, il était miné par des guerres internes.
Sachant que le PRI avait toujours gagné les élections politiques, et notamment il y avait les derniers suffrages dans les années 90 où il y avait eu des grandes fraudes. Je me souviens que au Chiapas, on m'avait cité le chiffre d'un district, je crois, où le parti du PRI avait obtenu 110%, quelque chose comme ça. Donc c'est assez fort quand même. Mais finalement, il a un peu lâché. Du coup, les fraudes n'ont pas suffi à le faire réélire. C'était en 2002, c'est ça ?
En 2000, ouais. Ouais, voilà. Enfin là, c'est vrai que ça, c'était vraiment bon. Ils étaient vraiment un peu à bout de souffle à ce moment-là, mais. Ils ont cédé leur place au PAN. Alors le PAN, c'est quoi ? C'est un parti de droite catholique, bien réac, bien libéral, comme il faut.
C'est le Parti d'Action Nationale, ça que ça veut dire, PAN.
Parti d'Action Nationale, ouais. Le premier président, là, en 2000, c'était l'ancien représentant de Coca-Cola pour les États-Unis. Donc ça, voilà, pour donner un peu une idée du personnage. qui est un parti tout aussi cynique, tout aussi corrompu, mais qui a pas les mêmes, qui a pas la même assise régionale et locale que le PRI, quoi. Et ce qui fait que bah le l'ordre qui arrivait à maintenir le PRI en maniant la carotte et le bâton, voilà, c'est un peu délité aussi à ce niveau-là, quoi. Et que et bah les conflits entre les différents niveaux de pouvoir et aussi le soutien en fait qu'a fourni le gouvernement à un des cartels, qui est le cartel de Sinaloa, en laissant notamment échapper son chef de la prison de plus haute sécurité du Mexique en 2000 dans des conditions plus que douteuses. Et donc voilà, le soutien qu'il a apporté à ce cartel, bah ça a fait grincer des dents aux autres cartels, et ça a aussi c'est pas étranger à l'explosion de violence, quoi, qui pour le contrôle bah de tous ces trafics, quoi. Et que bah le en fait ce président actuel là, Calderón, il est arrivé par une fraude au pouvoir en 2006, qui est une fraude en fait à peine maquillée, quoi. C'est-à-dire que bon, là-bas vraiment tout le monde le sait, le dit, que et même lui s'en cache pas vraiment qu'il est arrivé par la fraude au pouvoir, quoi.
Mais bon, il y avait eu plein de témoignages à l'époque sur les cas de fraude, des urnes bourrées et tout ça, enfin un peu les types de fraude classiques, quoi. Et du coup, c'était l'élection se jouait entre le PAN et le PRD, qu'on n'a pas encore parlé, qui est le Parti Révolutionnaire Démocratique, qui est un parti de gauche, on va dire, et qui réclamait du coup la victoire, si bien que pendant un temps, le Mexique avait deux présidents, deux gouvernements et tout, et le candidat López Obrador du PRD réclamait aussi lui la victoire, et puis finalement petit à petit a un peu baissé la tête, quoi.
Ouais voilà, ouais, c'est vrai que bon, là, le Mexico avait été occupé par 3 millions de personnes pendant le centre de Mexico pendant des mois et des mois. Bon, ça a rien changé, ils ont pas lâché l'affaire. Et bon, de toute façon, on y reviendra juste après, là, justement, sur le fait que la proximité du Mexique avec les États-Unis fait que les Américains ne lâcheront pas ce pays. Par contre, on va lâcher l'antenne un petit moment.
Una jaula de oro pendiente de un balcón estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Zedillo y su lugar ocupó, y una chinga peor a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te los chingaste, ahora los chingo yo. Llegó de Guanajuato un beato bigotón que salió peor que todos, persignado y ladrón. Pero lo peor de todo para nuestra nación son todos los amigos que tiene este cabrón. Con gringos y empresarios y el cura Santurrón están en esa jaula chingando a la nación. Y el pueblo apendejado viendo televisión, creyendo que algún Dios le va a dar salvación. Escucha, pueblo tonto, y pon mucha atención, ya es hora de que cambies tu triste situación. Agarra esos ladrones que chingan tu nación y cuélgalos a todos, no tengas compasión. El cura y el burgués y el gobierno ladrón, aunque parecen tres, son el mismo cabrón. Con su carne y su cuero haremos chicharrón, y con su pinche cebo vamos a hacer jabón.
Toujours sur Feu de Tout-Bois, sur 107.5 de Radio Diwa, et on parle un peu du Mexique. Là, il y avait un chanteur qui s'appelle Andrés Contreras, et une chanson assez... je crois que celui-là s'appelait El Jaula de Oro, et c'était un peu satirique sur les présidents mexicains et sur comment le pouvoir de l'argent là-bas. Et, d'ailleurs, c'est un monsieur qui est assez sympa. Il va avec une espèce de diable là et un ampli, et il va un peu dans toutes les luttes à travers le Mexique qu'il souhaite soutenir, et puis il vient chanter pour les gens, il vient se poser, aider, et voilà, du coup c'est un personnage assez sympathique. Donc on continue sur notre chronique mexicaine.
Ouais, voilà, alors donc on était en train de dire que de parler de ce nouveau président. Au passage, pour témoigner de l'humour que ne perdent jamais les Mexicains malgré les situations terribles qu'ils peuvent vivre, Felipe Calderón a été surnommé Fécal. Voilà, c'est une petite abréviation sympathique qui traduit bien l'estime que lui porte son peuple. Et mais bon, enfin, donc là, c'est vrai qu'on a parlé un peu de la situation interne, qui est super chaotique. C'est assez difficile en aussi peu de temps aussi d'esquisser un peu un tableau complet, quoi. Mais bon, ce serait encore plus loin d'être complet si on parlait pas justement de la position géostratégique du Mexique et de des intérêts en jeu, en fait, pour son voisin nord-américain. Donc voilà, le Mexique et les États-Unis, c'est une frontière de plus de 3000 km. Il y a des centaines de milliers de migrants qui passent chaque année, le plus souvent illégalement. Donc ce serait aussi l'occasion de parler de ça, de la situation qui est faite à ces migrants et de toutes les horreurs qui sont vécues pendant la migration, parce que c'est des gens qui viennent en fait de toute l'Amérique centrale. Autre digression, toute l'Amérique centrale de toute façon est en ce moment est plongée dans cette spirale de violence. Voilà, c'est des situations qui se retrouvent un peu de la frontière nord-américaine jusqu'au Panama, en Colombie, enfin voilà. Donc il y a cette frontière de 3000 km. On peut dire que c'est la plus grande frontière terrestre entre le premier monde et le tiers monde, et forcément elle cristallise aussi un peu tout ce qui peut se jouer entre en termes d'impérialisme, en termes de violence et de domination du nord sur le sud. Et après le 11 septembre 2001, en fait, il y a un tour de vis sécuritaire qui s'est joué aux États-Unis. Avec une espèce de paranoïa qui est partie dans tous les sens, et le contrôle de la frontière mexicano-américaine, c'est devenu un enjeu politique majeur et une espèce d'obsession en fait pour les politiques. Qu'ont complètement militarisé en fait la frontière avec des patrouilles en permanence, et la construction d'un mur là comme le mur de Berlin, comme le mur entre Israël et la Palestine, enfin voilà, on est dans une époque qui n'a pas fini de construire des murs apparemment. Et donc cette militarisation au nord, il faut aussi pour les États-Unis, en fait, il s'agit aussi de militariser aussi le sud. Et donc on peut quand même imaginez que cette guerre des cartels et la pression qu'ont fait les États-Unis sur le gouvernement mexicain pour y mettre soi-disant fin, c'est aussi un prétexte pour envoyer l'armée là-bas. Et donc ce qui est en train de se passer aussi, c'est que toute cette zone, en fait, ça devient une zone de non-droit, une zone de terreur qui a forcément aussi un effet dissuasif sur les candidats à la migration. Et là, on pourrait presque faire un parallèle, en fait, avec les politiques migratoires européennes qui ont tendance à déplacer la gestion de leurs frontières au-delà des frontières physiques à n'importe quel prix pour les migrants, enfin pour les populations sur place. C'est-à-dire que là, on ferme les yeux, on s'en frotte les mains en fait de ce qui passe, parce que de toute façon, c'est pas sur le territoire de nos chères et belles démocraties.
Ouais, d'ailleurs, on se souvient que la France et d'autres pays ont longtemps soutenu Kadhafi parce que c'était un espèce de justement mur en dehors de l'Europe, en tout cas de régime qui qui empêchait le passage des migrants de Libye et d'ailleurs des pays du Moyen-Orient et vers la France et vers l'Italie. Donc voilà, la chute de ce régime a donné lieu à une vague d'immigration assez importante, et que voilà, c'est pas pour rien si on soutenait aussi Kadhafi à une époque, quoi.
Mmh. Ouais, voilà, ouais, c'est que après les critères de droits de l'homme, de respect de respect des droits humains et tout ça, ça passe en dessous des enjeux présentés comme de sécurité publique pour les grandes puissances occidentales. C'est qu'on oublie facilement ces bons principes quand il s'agit de se protéger. Alors de quoi, on ne sait pas, mais de se protéger en tout cas. Et donc, par contre, ce qui continue de circuler à peu près sans problème, c'est la drogue dans un sens et les armes dans l'autre. On estime qu'à peu près 2000 armes franchissent la frontière des États-Unis vers le Mexique chaque jour. Et y compris des armes de haut calibre, des armements qui sont des vrais armements militaires. Il y a des histoires très troubles en fait d'implication qui impliquerait la DEA, qui est donc la Drug Enforcement Administration, qui est censée lutter contre le trafic de drogue, mais bon, qui est un des principaux, si ce n'est le principal narcotrafiquant, peut-être qu'il se dispute la place avec la CIA. Donc voilà, il y a des histoires en fait de convois d'armes qui auraient été directement acheminés par cette agence vers le Mexique, avec l'opération Fast and Furious qui a été mise à jour l'année dernière. Donc je vais peut-être pas vous en parler parce que ça prendrait encore pas mal de temps. Mais voilà, donc en fait là on en vient à se demander qu'est-ce qui est en jeu derrière tout ça. C'est-à-dire que le trafic de drogue, il a toujours existé. C'est quelque chose, un phénomène qui est là depuis 50 ans. C'est-à-dire que le Mexique a toujours été le point de passage de la cocaïne et de l'herbe et de l'héroïne qui est consommée aux États-Unis. Donc pourquoi en fait, qu'est-ce qui fait que y a ce déferlement de violence là tout d'un coup depuis une dizaine d'années. On se demande en fait quoi, et qu'est-ce qui fait que à l'image du plan Colombie qui avait été du sinistre plan Colombie dans les années 90 mis en place par les États-Unis et qui a eu pour résultat effectivement un déchaînement de violence aussi là-bas, et une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, et voilà, une vraie guerre civile qui a provoqué une vraie guerre civile dans le pays. Là, ce qu'on a en ce moment, en fait, au Mexique, c'est l'initiative Mérida, donc qui est une gracieuse proposition des États-Unis de venir en aide au Mexique qui est complètement débordé. pour lutter contre le trafic de drogue. Donc par exemple, le plein Mérida, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose aux Mexicains, dont la marine est occupée dans le nord du pays à pourchasser les narcotrafiquants, donc il propose aux Mexicains de prendre en charge la surveillance de leurs frontières maritimes, par exemple. En sachant que, par exemple, la zone du golfe du Mexique, on vient d'y découvrir des gisements de pétrole qui sont dans des quantités assez incroyables, c'est-à-dire qu'il y a du pétrole pour encore 100 ans là-bas. Donc c'est aussi une façon de poser leurs pions et voilà, de se servir effectivement de ce prétexte de guerre pour asseoir leurs intérêts, pour voilà, c'est pas nouveau, hein, c'est un peu leur le mode de gouvernance et de domination du nord par le sud, encore par le chaos, par la guerre, par la terreur et voilà, donc c'est vrai que ça nous fait ça nous montre que au-delà de la mise en scène en fait de cette guerre contre le narcotrafic, il y a des choses qui sont en train de se jouer qui sont de l'ordre d'une politique impérialiste et que cette militarisation du pays en fait elle s'accompagne aussi de tout un tas de nouvelles concessions minières qui sont accordées aux firmes occidentales de tout un tas de projets, de projets par exemple de canal entre l'Atlantique et le Pacifique, d'une exploitation jusqu'à la moelle de ce pays, quoi. Et voilà, bon, ça c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça prend en fait ça a pris avec les politiques néolibérales une ampleur là ces derniers temps qui a été en peu d'années dévastatrice, quoi.
Parce que peut-être par rapport à d'autres pays du continent latino-américain, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de mettre un peu à bas le joug des États-Unis, le Mexique quand même suite à la révolution, d'ailleurs où les États-Unis ont joué aussi un grand rôle. La révolution du début du XXe siècle avait quand même pris des mesures pour nationaliser une partie notamment des productions, enfin du sol mexicain, des ressources et se protéger un peu pour essayer aussi de créer une économie locale et s'en sortir et ça a survécu quelque temps, mais c'est vrai que depuis 20-30 ans c'est les politiques néolibérales ont pris le dessus et tout ce qui était acquis de la révolution est tombé petit à petit, plus ou moins vite, et puis, mais là, c'est quasiment tout ce qui avait été acquis à cette époque-là et maintenant de l'ordre du passé, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, en étant sur place, on se rend compte vraiment qu'il y a une inégalité qui est vraiment hallucinante, quoi. Enfin, voilà, entre ce qu'on disait tout à l'heure, entre c'est le pays qui compte l'homme le plus riche au monde, Carlos Slim, si on est dans Mexico, il y a des quartiers ultra modernes, de haute technologie, des gratte-ciel incroyables, des bagnoles de luxe, vraiment un luxe, enfin une richesse qui s'affiche de façon, enfin vraiment complètement décomplexée, quoi. Et à côté de ça, des océans de misère, quoi, des bidonvilles qui poussent. Et donc à côté de ça, les paysans qui migrent vers les villes et vers le nord, et cet accaparement des richesses, en passant aussi par la destruction de tout ce qui fait obstacle en fait à ce pillage, quoi. Et c'est vrai que mise en perspective dans cette domination économique et politique, la guerre, cette prétendue guerre contre le narco, elle prend quand même un peu plus de sens, quoi. C'est-à-dire que là, on est dans une situation effectivement où il y avait un narcotrafic qui était là et qui s'accordait avec le pouvoir qui a toujours été corrompu et qui fonctionnait de cette façon, avec aussi son lot d'affrontements et de violence et tout. Mais là, ça atteint en fait des proportions qui font que il faut chercher à comprendre, quoi, de démêler un peu tout ça, ce qui est pas toujours évident.
Mais l'arrivée au pouvoir du PAN, du coup, a changé un peu la donne là, dans ces, parce que le PRI a des réseaux quand même très installés, une corruption très forte, et du coup un soutien qui va de grandes personnes du Mexique à plein de partisans, et notamment pourquoi pas armés, qui sert comme, enfin des fois la police sert aussi comme un peu comme milice, et puis des gens armés, des paramilitaires, quoi, qui font un peu régner la loi pour le compte des partis là-bas. Mais du coup ce passage du PRI au PAN, c'est aussi un tournant là, voilà, dans ces jeux de pouvoir et dans le soutien armé qui se situe derrière, quoi.
Ouais, voilà, c'est vrai que ça a un peu redistribué les cartes dans un sens, et dans l'autre, en fait, le prix qui s'est effondré à un niveau national a maintenu aussi ses réseaux de qu'on peut apparenter, voilà, des réseaux mafieux, mais aussi fonctionner en fait en achetant les mouvements de protestation, ou en les liquidant si c'était pas possible de les acheter, qui a un parti qui a vraiment une vraie base, une vraie assise locale que n'a pas le PAN, quoi. Et c'est aussi ça, en fait, cette redistribution des cartes qui a fait qu'il y a aussi une violence qui a échappé un peu, enfin qui a échappé à tout contrôle, quoi, aussi. Et une petite pause musicale.
Encore un petit Andrés Contreras.
México es un país donde hay una alta incidencia de enfermedades venéreas, SIDA, una gran incidencia de embarazos no deseados que provocan, según los expertos, alrededor de 500,000 de abortos al año. El aborto, estoy de acuerdo en que es un crimen, pero ¿quién tiene la culpa? Nos podemos ir a lo facilito y decir que tiene la culpa la mujer, que por caliente, que por ofrecida o demás, o que la culpa la tiene el hombre por andar de enamorado, pero la realidad es que la culpa de estos acontecimientos está mucho más allá de lo sencillo. Los culpables de que haya tanto SIDA, tantas enfermedades venéreas, tanto embarazo no deseado que provocan alrededor de 500,000 de abortos al año, que es culpa de quienes se niegan a que se enseñe a los mexicanos desde pequeños, desde su hogar incluso, a tener una sexualidad responsable, a conocer su cuerpo y a saber cuidarlo. Y cuando llega el momento de tener relaciones sexuales, que a todo mundo se nos llega, pues hacerlo de manera responsable, debidamente protegidos. Uno de los principales medios para prevenir embarazos no deseados, pues es el condón. Yo creo que el condón es una bendición porque protege no solamente de embarazos no deseados, sino también de enfermedades de transmisión sexual. Lo negativo de la intervención de la iglesia es que andan queriendo prohibir que se venda el condón en las farmacias, y algunos farmacéuticos muy religiosos ya no lo quieren vender, hágame favor, oiga, por eso. Esa cama del rincón siempre estaba rechinando, se me reventó el condón por tanto estarlo lavando cada vez que yo lo usaba. Primero yo lo vaciaba, luego yo lo remojaba y después lo enjabonaba, enseguida lo enjuagaba, luego lo ponía a secar y cuando ya se secaba luego lo volvía a usar. Se me reventó el condón por tanto estarlo lavando. Cuando
cuando el condón se trozó, mi pareja lo notó. De inmediato me chispó, de la madre me mentó. Dijo, ya no te doy nada si no traes otro condón, vete mucho a la chingada. Se me reventó el condón, por tanto estarlo lavando. Del coraje que me dio, se me fue la inspiración. Que se reventó el condón, no me hizo ninguna gracia. A mí me dio mucha pena, fui corriendo a la farmacia y me traje una docena. Se me reventó el condón, por tanto estarlo lavando.
On vient d'écouter un autre morceau d'Andrés Contreras sur donc chanteur mexicain qui parlait du condón, donc du préservatif, et c'était assez un peu sous le ton de l'humour, mais au début il disait un peu que il plaidait un peu en faveur de ça parce que l'Église a quand même un poids assez fort au Mexique et du coup il y a un peu des retards sur certaines idées, certaines choses, et que du coup on suit un peu les invectives de la papauté, et du coup l'usage du préservatif est pas toujours très répandu, et d'ailleurs on parlait du PAN, le PAN est un parti très proche de l'Église catholique et notamment de ses tendances les plus extrêmes, de l'Opus Dei notamment, un secte on va dire assez extrême dans ses positions sur la religion catholique.
Ouais, et par ailleurs le pape qui vient de venir au Mexique en fait au mois de mars, par exemple, n'a pas voulu passer par Mexico City parce que à Mexico City l'avortement a été légalisé, de même que le mariage homosexuel, et donc il est allé dans les bastions du catholique, du PAN, du centre du Mexique, quoi, qui sont des villes de la bourgeoisie coloniale ultra catholique, enfin voilà. Mais bon, on va pas parler de Ratzinger ce soir, même s'il y aurait beaucoup à en dire. Et donc pour revenir un petit peu là rapidement quand même, ce qui y a vraiment beaucoup à en dire en fait, c'est-à-dire que là par exemple donc le nord du Mexique, qui est cette zone complètement militarisée, qui est une zone de non-droit. Les journalistes, il y a des reportages assez intéressants là de journalistes justement qui parlent un peu de la difficulté extrême en fait à exercer leur métier là-bas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui se font tuer et on sait pas vraiment par qui.
Moi, je me souviens d'avoir vu un chiffre il y a quelques années où le Mexique était, juste après la Chine, le pays où on tuait le plus de journalistes dans le monde, quoi.
Et ben, en 2010, il a raflé la palme. Donc, voilà, ils sont contents. et donc, qu'est-ce qui se passe dans le Nord? Dans le Nord, on sait pas vraiment ce qui se passe. On sait que, il y a quand même des témoignages qui arrivent beaucoup de groupes de maires qui s'organisent pour exiger la réapparition de leurs filles et fils, ou mari, ou frère, ou sœur, qui ont été en fait enlevés par l'armée ou par des différents corps de police, parce qu'il y a beaucoup de corps de police différents là-bas, et qui sont jamais réapparus. Donc pour certains, depuis 5 ans, ou des fois d'autres témoignages de gens qui sont enlevés en fait dans des rafles de l'armée qui réapparaissent le lendemain. Et alors là, pour le coup, on convoque la presse et on met des armes dans les mains des cadavres, et ça passe au bilan des pertes et profits des cartels. Donc voilà, c'est un peu la situation qu'il y a là-bas. C'est le gouvernement par la terreur. dans ce flot de violence qui en fait ça permet aussi de faire passer plus ou moins inaperçu des assassinats qui sont clairement politiques, donc des militants des droits de l'homme, des militants écologistes, des gens qui luttent dans leur communauté parce qu'il y a beaucoup de, ce sera l'occasion sûrement d'une autre petite discussion. Voilà, des luttes dans les communautés indigènes pour l'autonomie, pour un peu dégager tous ces mal gouvernants, comme ils les appellent là-bas. Et donc dans ce lot de violence là, un militant qui se fait désinguer par-ci par-là, forcément ça passe plus inaperçu. Il y a eu une manifestation d'étudiants en décembre dans le Guerrero, qui est un état du sud-est du pays, dans laquelle il y a trois étudiants qui se sont fait descendre. Il y a beaucoup de militants communautaires qui sont enlevés par l'armée, qui réapparaissent pas, ou il y a aussi un mouvement de paramilitarisation très fort du pays et qui permet là pour le coup vraiment de mener une guerre sale n'est officiellement pas mené par le gouvernement, mais qui bien entendu est derrière, c'est-à-dire ou bien à fermer les yeux, aussi à entraîner, à fournir en armes.
Ouais, puis les gens qui s'enrôlent en tant que paramilitaires, c'est souvent des gens qui sont proches des partis, enfin qu'on soutient en tout cas dans les partis, et même des policiers du coup quoi. Et les policiers là-bas, ils ont pas mal de, ils se permettent un peu tous les droits. Moi, j'ai souvenir je me suis fait arrêter sur une route. Par des gens, des policiers qui pensaient qu'on était des narcotrafiquants, qui avaient mis des cagoules et des grands fusils. Ils sont repartis, ils sont revenus quelques temps après, les mêmes, mais ils avaient changé d'uniforme et changé de type de police. Et on s'était passé de la police de l'État dans lequel on était à la police municipale. Donc sans aucun souci de savoir si, enfin sans aucun respect du droit, quoi.
Ouais, c'est assez hallucinant ça, en fait, où effectivement. Cette gouvernance par la terreur, comme on peut dire, en fait, elle permet aussi, elle crée un tel climat qu'on sait pas d'où viennent les coups, on sait pas qui est qui. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est de notoriété que l'armée est aussi un des acteurs du narcotrafic et qu'il y a aussi des groupes de l'armée, par exemple, qui ont fait carrément sécession, des troupes d'élite qui ont fait sécession de l'armée, avec leur armement, avec tout leur équipement, pour dire, bon, maintenant, on fait du narcotrafic, et que c'est rien à la chingada, comme on dit là-bas. Et donc, des gens qui sont militaires le jour et narcotrafiquants la nuit, ou vice-versa, enfin, c'est une situation vraiment chaotique, quoi,
Il y a une impunité totale, quoi. Tous ces crimes-là, ils sont rarement. Il y a des enquêtes, rarement ça aboutit. Et même s'il y a des témoignages frappants d'injustice et des dossiers complètement complets pour montrer les injustices qui se passent là-bas, en général, les policiers qui sont pris dans ce genre de choses ou des paramilitaires s'en sortent plutôt bien, selon leur appartenance au groupe, selon leur grade, ainsi de suite, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors par exemple une autre statistique, hein, on va pas trop vous gaver avec les statistiques, mais il y a un taux d'élucidation de 1% des meurtres au Mexique. Donc faites le calcul sur 60 000 morts. Voilà. Et on va peut-être arrêter un peu avec le Mexique. On y reviendra à un autre moment, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire et voilà. Et c'est intéressant, ça fait froid dans le dos parce que c'est un laboratoire un peu de ce que peut être une politique de domination et d'exploitation poussée à l'extrême. Et voilà, moi je vais en guise de conclusion, je vais vous citer la phrase d'un ami qui m'a dit Méprends-toi, le Mexique n'est pas le, le passé de l'Europe, c'est son futur.
D'écouter un morceau de Rebetiko, Chant de la plèbe de Grèce des années 30. T'as d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu un, récemment une information là, sur la Grèce où maintenant, pour rembourser les dettes publiques, ils n'ont rien trouvé de mieux que de louer les policiers. Donc voilà, si vous êtes grec et que vous avez un peu d'argent, évidemment, vous pouvez louer des policiers pour votre sécurité personnelle. Évidemment, vu la situation sociale qui règne là-bas, c'est peut-être quelque chose qui va se multiplier et ça rejoint un peu la corruption et tout ce qu'on a pu parler avant sur le Mexique et voilà, la terreur et ainsi de suite. En France, pour l'instant, on peut s'engager volontairement pour être policier. Et l'État recrute, là où vous avez fait des textes de loi qui sont parus il n'y a pas longtemps, qui prévoyaient donc des policiers de secours citoyens pour assister notre police dans sa tâche quotidienne. On va parler de toute autre chose maintenant. D'Espagne, et où d'ailleurs la situation sociale est assez tendue en ce moment, enfin beaucoup de chômage, on en avait parlé un petit peu, il y avait une grève générale assez suivie il y a ça 2 semaines je pense, et avec pas mal d'affrontements à Barcelone où il y a eu des gens qui ont été inculpés et voilà, mais là ça s'est passé je pense un petit peu avant cette grève générale, ou non un petit peu après plutôt, c'était le 4 mars en Andalousie. Il y a des membres du syndicat andalou d'ouvriers agricoles qui sont venus, donc 500 journaliers agricoles et donc membres de ce syndicat, ont envahi une finca, donc une ferme à Somonte, dans les riches terres de la plaine de Guadalquivir, près de Palma del Río, dans la province de Córdoba. Et ils ont envahi une terre où il y a 400 hectares et qui fait partie d'un lot en fait de 20 000 hectares que la Junta, c'est-à-dire le gouvernement andalou socialiste, avait décidé de vendre aux enchères. Et du coup, la vente était prévue pour le 5 mars, ce qui a empêché évidemment cette vente. Donc il y a une trentaine de personnes du village des alentours qui sont venues s'installer sur le lieu. Ils ont commencé à travailler la terre, à semer des salades, des tomates, des pommes de terre, des oignons. D'abord pour l'autoconsommation. Étant donné la pauvreté et la misère qui règne là-bas, c'était déjà pas mal de se nourrir. Ces personnes sont aidées par des dizaines d'autres personnes venues de toute l'Andalousie pour appuyer l'occupation. Des personnes même qui ont travaillé déjà dans cette finca quand elle était encore en mode de production. Et voilà, les gens ramènent des outils et ainsi la vie s'installe. Il y a un électricien qui est venu gratuitement, installer tout ce qu'il faut, un plombier, du coup toutes les décisions sont prises dans les assemblées générales quotidiennes. Il y a des commissions qui ont été établies pour s'occuper de la logistique, des relations avec les médias, du nettoyage, des repas, du travail horticole, donc une espèce d'horizontalité comme ça dans le mode de gestion de ce lieu qui est assez intéressante. Et voilà, cette ferme se trouve, donc c'est occupé par sous l'initiative du SOC, du coup le syndicat ouvrier agricole. Et le but de ça, c'est selon le SOC, donc c'est l'idée d'abord, c'est de cultiver la partie, il y a une partie qui est irrigable et qui pourrait fournir du travail à 50 personnes. Et après, la ferme pourrait à terme faire venir plus de gens. Dans tout le domaine. Et les occupants disent qu'ils ne veulent pas créer une coopérative de salariés, mais une coopérative de résistance, assurant la survie et un lieu de vie pour de nombreuses personnes frappées par la crise. Et finalement, du coup, il y a un bon soutien autour de gens qui sont dans les mouvements écologiques, d'agriculture biologique et ainsi de suite. Et du coup, la vente devait être. Il y a une manifestation qui s'est rendue au département d'agriculture pour que la vente soit annulée. C'était le 13 mars. Et du coup, le SOC, donc ce syndicat, a appelé à une mobilisation locale, nationale et internationale. Et du coup, si vous voulez y aller, si vous voulez vous rendre dans la province de Córdoba, dans les riches terres, donc près de Palma del Río. Donc dans cette occupation de terre, et ben voilà, ils demandent du soutien, si vous avez des outils, si vous avez aussi de l'argent, ils ont ouvert un compte bancaire, enfin bref. Je finis par une citation de leur conclusion, de leur premier communiqué. Cette action devrait être le début de la révolution agraire, qui en cette période de chômage, de pénurie et d'escroquerie néolibérale nous manque tant. Aujourd'hui, toute alternative pour survivre avec dignité doit passer par la lutte pour la terre, l'agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire. Et je finis par dire que voilà, c'est 20 000 hectares. Le gouvernement a déjà pu vendre 20 000 hectares, mais il en reste encore 8 000 à occuper. Donc il y a de la place là-bas, quoi. Et vu la situation, ma foi, c'est une bonne chose que ces terres soient reprises, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être se quitter. On va se quitter là-dessus. Et puis on reparlera peut-être la semaine prochaine du Mexique. Et puis on parlera même peut-être du Chili aussi. Parce que vite fait en passant, il y a un ami chilien qui viendra nous raconter ça mieux que moi. Mais il y a eu encore des heurts entre des Mapuches, donc des indigènes du sud du Chili, avec les policiers. Et dans ces affrontements, un policier est mort, ce qui donne lieu maintenant à une vague de répression assez importante, qui est déjà de toute façon très importante contre le peuple mapuche, qui réclame une autonomie, pas nécessairement une indépendance, mais au moins en tout cas une autonomie, et pouvoir pratiquer sa culture, sa langue et ses rites de la façon dont ils veulent, et en gardant les terres qu'ils ont ancestralement eues, qu'ils ont été dépossédées par la colonisation espagnole puis par l'État chilien. Et donc la répression est toujours très forte là-bas pour leur quitter les terres et installer des autres activités industrielles bien plus rentables que l'agriculture vivrière que font les Mapuche. Et voilà, du coup, l'assassinat de ce policier entraîne une vague de répression, mais on en parlera la semaine prochaine, j'espère, si notre ami chilien est de retour. D'ailleurs, salutations à lui, s'il nous écoute. Allez, ciao!
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Qu'il roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants.